à l'invitation de Dominique, qui consistait à conjoindre finalement deux de mes intérêts, c'est-à-dire à la fois l'œuvre de Claude Simon et la littérature contemporaine, je m'étais d'abord rendu avec un plaisir amical tout à fait évident, et puis à y réfléchir, je me suis dit qu'un tel propos était véritablement extrêmement délicat. D'abord, il est un peu prématuré parce que nous aurons la semaine prochaine à Paris des rencontres au Centre Pompidou avec une vingtaine d'écrivains qui viendront dire justement leur relation à cette œuvre, et c'est difficile d'anticiper sur ce qu'ils vont en dire eux-mêmes. Il y aura d'autres rencontres au mois de décembre, le 14 décembre au Petit Palais aux Champs-Élysées avec de nouveau d'autres écrivains français et étrangers aussi. Le travail du critique n'est pas, je crois, forcément de préjuger de ce que les écrivains vont pouvoir dire et dire ici même, comme le feront Yves Ravet, Jean-Paul Gout tout à l'heure ou demain. D'autre part, je crois qu'il est assez peu pertinent de parler, a fortiori à propos de Claude Simon, de disciple ou d'influence directe ou même de filiation littéraire. Ça a été fait parfois par la critique, hein, notamment pour Jean Rouault, lorsque Jean Rouault a publié Les Champs d'honneur ou Des hommes illustres. Mais il me semble que ni Simon, ni les écrivains qui pourraient être concernés à cet égard ne se reconnaîtraient dans ce type de désignation. Il n'y a pas d'école Simon. Enfin, c'est un peu absurde de parler dans ces termes-là. Quant à se livrer à l'exercice de manière un peu traditionnelle, comme le faisait la Sorbonne d'autrefois, en établissant une sorte de critique des sources, je crois que c'est encore plus dépassé. Et donc, je ne m'y aventurerai pas du tout. Alors, je pourrais m'arrêter là et dire, bon, non, c'est plus la peine. Mais quand même, je ne voudrais pas que vous soyez trop déçus d'être venus. Donc, je vais essayer d'envisager cela un peu autrement. Je crois que ce qui est tout à fait évident pour tout le monde, c'est que Claude Simon a fait bouger les lignes, qu'il a ouvert des voies, qu'il a aiguisé des formes de lucidité nouvelles, qu'il a aidé peut-être un certain nombre de lecteurs et d'écrivains, a fortiori, à envisager la narration selon d'autres modalités, qu'il a même, j'irais jusqu'à dire, donné à la fiction d'autres usages que ceux qu'elle avait avant lui. Et ces modifications dans la conception même de l'écriture et dans le rapport du texte à son objet sont peut-être aussi importantes, sinon plus, que ce que l'on retient habituellement de Claude Simon. Alors, bien évidemment, sa proximité historique avec les gens du nouveau roman, mais même avec son phrasé qui est extrêmement singulier, ou sa relation phénoménologique au monde, sur laquelle je redirai un mot tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, dans le travail de l'écriture, dans la réflexion que l'écriture produit sur elle-même, dans le mouvement même de son travail, quelque chose qui apparaît là et qui élève la pratique littéraire à une exigence peut-être nouvelle, et dont grand nombre d'écrivains aujourd'hui, quand bien même ils écrivent des choses extrêmement différentes de ce que fait Claude Simon, sont, je crois, indubitablement marqués. Et donc, c'est un peu de ça que j'ai envie de vous entretenir, de cette manière de faire bouger les choses à l'intérieur même du texte, sans méconnaître, bien évidemment, que des pratiques plus précises de Claude Simon ont laissé des traces très évidentes. Le phrasé que j'évoquais tout à l'heure, on peut en retrouver parfois des échos, des résonances chez des écrivains aussi différents. Alors j'espère qu'il ne va pas me démentir dans les secondes qui viennent, mais je pense à Jean-Paul Gout, par exemple, la phrase de Jean-Paul Gout, qui va aussi chercher dans ce mouvement ramifié de la syntaxe à réunir des choses qui sont parfois de nature ou de temporalité diverse. Ou pour prendre une écrivaine beaucoup plus jeune, je pense à Maïlis de Kerangal et certaines pages de Naissance d'un pont ont ce mouvement qu'on pourrait dire aussi faulknerien, mais Simon lui-même aussi est proche de Faulkner à cet égard, qui est une sorte de phrasé agglutinant de diverses époques et qui sont réunis autour d'une petite observation qui d'un seul coup fait tache d'huile et circule à travers à la fois la pensée et la phrase. On pourrait dire aussi que le rapport phénoménologique au monde et même l'écriture ressassante de Claude Simon se retrouve à certains égards dans l'œuvre de Pierre Bergougnoux, qui le reconnaît lui-même. Et donc, voilà, on pourrait jouer à ce type de parenté-là. Mais ce qui me semble plus intéressant, c'est peut-être, puisque c'est aussi une intervention inaugurale, enfin, de dire ce qui se passe dans l'œuvre de Claude Simon, au moins du point de vue des questions du savoir et de l'histoire, qui sont des thèmes insistants chez lui, et au passage, peut-être, vous reconnaîtrez effectivement un certain nombre de pratiques qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui chez d'autres écrivains, de pratique ou de forme d'ailleurs. Et je pense notamment à la forme du récit de filiation qui a été promue aussi par des gens aussi divers que Pierre Michon d'un côté ou Annie Ernaux de l'autre côté, mais qui se retrouve de manière amplifiée peut-être dans l'Acacia. Comme si finalement il était un peu difficile parfois de savoir si les questions littéraires, les pratiques esthétiques de Claude Simon sont quelque chose qui a donné des traces et des conséquences dans la littérature qui le suivent, ou si ce sont des phénomènes d'époque que son œuvre, plus qu'une autre, a réussi à cristalliser et qui, à partir de cette cristallisation, a donné une ampleur, une assise, une puissance à ces phénomènes que peut-être il n'aurait pas eu sans son travail personnel. Donc je propose finalement assez modestement de livrer quelques aperçus, de lancer quelques pistes, et je les rassemble autour de ces grandes questions du savoir et de l'histoire, ou plutôt autour des manières que Simon a d'envisager littérairement le savoir et le dire de l'histoire, les deux étant du reste évidemment très intimement liés, et les deux continuant de nourrir aussi le questionnement littéraire contemporain, et pas seulement le questionnement littéraire, mais aussi parfois ceux des autres espaces de la pensée, et je pense notamment aux historiens eux-mêmes, et Patrick Boucheron, j'imagine, en redira quelques mots dans les séances ultérieures. Et donc, c'est finalement chemin faisant, et sans avoir besoin d'y insister précisément, que vous percevrez, je pense, ce que certains écrivains d'aujourd'hui ont pu retenir des pratiques simoniennes, et de quelle manière peut-être, et ça c'est en faisant appel finalement à vos lectures, vous remarquerez qu'ils s'en nourrissent. Au cœur de l'exposition qui s'est ouverte à Beaubourg au début octobre, et que vous pouvez encore voir jusqu'au mois de janvier, nous avons placé La Route des Flandres, qui nous semble un roman majeur de Claude Simon, central dans son œuvre. Et vous savez que ce roman est important par l'énigme autour de laquelle il se structure, ce geste de sabreur ou de statue équestre avec lequel le capitaine de Réchac riposte en cavalier au tir ennemi et s'offre ainsi à la mort. L'absurdité de ce comportement intrigue le narrateur et les questionnements qu'il adresse à ce comportement en fouillant le passé du personnage, les explications qu'il tente d'en donner avec ses camarades de captivité et qu'il est discret et les distrait, s'il se peut en tout cas, pendant leur séjour dans les camps militaires allemands et dans le train qui les y conduit, tout cela est extrêmement insistant et déborde de l'œuvre puisqu'on le retrouve dans les textes ultérieurs, notamment dans l'Acacia, dans le Jardin des Plantes. Et cela est si intriguant même dans La Route des Flandres, à laquelle je reviens, que le narrateur, revenu de la guerre, continue de s'interroger à son égard, en réitérant, vous vous souvenez certainement, en fin de roman, cette question lancinante, comment savoir ? Comment savoir, qui est finalement l'autre caractéristique à la fois du livre et de l'œuvre, et c'est dire, je crois, que la question du savoir apparaît effectivement comme tout à fait déterminante. Alors, le roman repose donc sur une interrogation, sur une énigme obsédante, reconduite, vous le savez, de livre en livre, et, ma foi, si ce n'était que cela, on pourrait considérer que cette œuvre s'inscrit dans la lignée de bien d'autres. Le romanesque s'élabore très très souvent et de manière extrêmement traditionnelle autour d'un mystère qu'il s'agit de résoudre. Mais les choses sont ici, je crois, beaucoup plus complexes, car il semble bien, si on postule une certaine cohérence de l'œuvre, que l'insistance même du questionnement perturbe l'agencement narratif du roman. Or, ce n'est pas le cas du romanesque traditionnel. Et des romans traditionnels orchestrés autour d'une énigme, leur agencement narratif reste, lui, relativement classique. C'est donc là que les choses se compliquent. Car, en produisant une structure narrative énigmatique, qui est énigmatique aux yeux même du lecteur, et c'est l'une des raisons, pour répondre à ce qu'évoquait Dominique Bondu tout à l'heure, qu'on considère souvent Claude Simon comme un écrivain difficile, inaccessible, et qu'on ne va pas jusqu'au bout de la lecture, ou qu'on même on se détourne de la commencer. Et donc, puisque le roman produit une structure narrative qui est elle-même énigmatique, pour traiter de cette énigme qui, elle, est purement thématique, que j'ai évoquée au début, ce qui se passe là, c'est que le roman dénonce, ipso facto, la relative incohérence des romans traditionnels qui conservent, eux, une forme classique, rationnel, et globalement linéaire d'ailleurs, pour traiter de ce qui, par ailleurs, défie la rationalité. Et donc, ce faisant, Claude Simon met en question les modalités usuelles de la narration, et même ses principaux fondements, l'instance narrative, le récit, la description, la chronologie, et il signe ce que j'appellerais volontiers une controverse esthétique et même une controverse épistémologique en matière de narration et de représentation. Comment, en effet, prétendre exprimer clairement quelque chose qui est donné comme obscur? Et à cet égard, ce livre, La route des Flandres, est un livre, au moins implicitement, polémique. C'est une polémique esthétique, une polémique épistémologique qui s'ouvre, et non, et pas seulement parce qu'il parle de la guerre, polémos, hein, mais parce qu'il met en question les esthétiques antérieurement instituées. Et du coup, il y a effectivement là quelque chose de décisif dans cette œuvre. En fait, si on regarde bien l'œuvre dans son ensemble, la polémique a même commencé un petit peu avant, très précisément en 1957, à la parution du Vent. Claude Simon, vous le savez, j'imagine, établit lui-même un partage entre ses œuvres. D'une part, les premières, dont il interdit d'ailleurs la réédition, du moins lorsqu'il est en mesure de le faire, et d'autre part, celles qui sont postérieures au Vent, donc à ce premier roman qu'il reconnaît et qu'il revendique. Cette césure est une césure importante parce qu'elle fonde la réflexion sur son travail. Et aussi, faut-il, dans cette double perspective esthétique et épistémologique, considérer le Vent comme une origine, quasiment peut-être comme un art poétique, d'autant que ce livre, qui a d'abord été écrit de manière plus conventionnelle, comme le reconnaît Claude Simon, a été ensuite par lui-même entièrement recomposé. Et donc, pour bien comprendre ce qui est en jeu, je propose de m'arrêter un instant sur le tout début, les deux, trois premières pages du Vent. Alors, je vais m'aventurer à vous en lire des passages, ce qui n'est pas facile connaissant les phrases de Claude Simon. J'imagine que Serge Renko ferait ça beaucoup mieux que moi. Mais rassurez-vous, on a convenu avec Dominique Bonduc qu'on vous photocopiera le texte et vous l'aurez ensuite pour pouvoir vous y reporter vous-même si vous n'avez pas le livre dans votre bibliothèque. Voici donc comment ça commence. C'est le tout début du livre. Il y a des guillemets quand quelqu'un parle. Un idiot. Voilà tout. Et rien d'autre. Et tout ce qu'on a pu raconter, ou inventer, ou essayer de déduire, ou d'expliquer, ça ne fait encore que confirmer ce que n'importe qui pouvait voir du premier coup d'œil. Rien qu'un simple idiot. Seulement, lui, avec le droit de se promener en liberté, de parler aux gens, de signer des actes et de déclencher des catastrophes. Parce qu'il paraît que les médecins classent les types comme ça dans les inoffensifs. Très bien, c'est leur affaire. Mais si au lieu de se contenter de leur avis, on demandait aussi celui des gens comme nous, qui en savent peut-être un peu plus long sur l'espèce humaine que tous ces types de la faculté, parce que, écoutez-moi, en fait de spécimens humains, tout défile ici, vous pouvez me croire. Et en ce qui concerne les mobiles auxquels obéissent les gens, si j'ai appris quelque chose pendant les 20 ans que j'ai passé dans cette étude, c'est ceci, qu'il n'en existe qu'un seul et unique, l'intérêt. Et alors, voilà ce que je dis. Point de suspension, guillemets, fermé. Le texte continue. Et tandis que le notaire me parlait, se relançait encore, peut-être pour la dixième fois sur cette histoire, le notaire. C'est donc un notaire qui parle, et vous l'avez entendu, ce notaire est assez convaincu d'avoir une opinion très claire sur les gens, il peut les nommer dès le tout début du texte, il sait que ce type-là, c'est un idiot, on lui met une étiquette, c'est fini, on sait qui c'est, il n'y a plus à en parler, et s'il y a une compétence établie, c'est bien celle des notaires, leur étude leur montre, d'où viennent les passions humaines, de l'intérêt, de l'argent, bref, on est chez Balzac. On est chez Balzac, et à cet égard, il y a quasiment une caricature, presque, des personnages balzaciens dans ce passage. Mais après ces guillemets qui sont donc fermés, voici comment continue le texte de Simon. Et tandis que le notaire me parlait, se relançait encore, peut-être pour la 10e fois, sur cette histoire, et là s'ouvre une parenthèse. Une parenthèse, comme vous les connaissez chez Simon, elle fait 3 pages. Et cette parenthèse détruit de manière extrêmement radicale et violente, non seulement ce qui vient d'être dit, mais surtout la manière de le dire, et la prétention à pouvoir le dire. Je m'élance dans la parenthèse. Sur cette histoire, et la parenthèse porte sur histoire, ou du moins ce qu'il en savait, lui, ou du moins ce qu'il en imaginait, n'ayant eu des événements qui s'étaient déroulés depuis 7 mois, comme chacun, comme leurs propres héros, leurs propres acteurs, que cette connaissance fragmentaire, incomplète, faite d'une addition de brèves images, elles-mêmes incomplètement appréhendées par la vision, de paroles, elles-mêmes mal saisies, de sensations, elles-mêmes mal définies, et tout cela vague, plein de trous, de vides, auxquels l'imagination et une approximative logique s'efforçaient de remédier par une suite de hasardeuses déductions. Hasardeuses, mais non pas forcément fausses. Car, où tout n'est que hasard, et alors les 1001 versions, les 1001 visages d'une histoire sont aussi, ou plutôt sont, constituent cette histoire, puisque telle elle est, fut, reste dans la conscience de ceux qui la vécurent, la souffrirent, l'endurèrent, s'en amusèrent. Ou bien, la réalité est douée d'une vie propre, superbe, indépendante de nos perceptions et par conséquent de notre connaissance, et surtout de notre appétit de logique. Et alors, essayer de la trouver, de la découvrir, de la débusquer, peut-être est-ce aussi vain, aussi décevant que ces jeux d'enfants, ces poupées gigognes d'Europe centrale, emboîtées les unes dans les autres, chacune contenant, révélant une plus petite, jusqu'à quelque chose d'infime, de minuscule, insignifiant. Rien du tout. Et maintenant que tout est fini, tenter de rapporter, de reconstituer ce qui s'est passé, c'est un peu comme si on essayait de recoller les débris dispersés, incomplets, d'un miroir, s'efforçant maladroitement de les réajuster, n'obtenant qu'un résultat incohérent, dérisoire, idiot. Ou peut-être seul notre esprit, ou plutôt notre orgueil, nous enjoint, sous peine de folie et en dépit de toute évidence, de trouver à tout prix une suite logique de causes et d'effets là où tout ce que la raison parvient à voir, c'est cette errance, nous-mêmes ballottés de droite et de gauche, comme un bouchon à la dérive, sans direction, sans vue, essayant seulement de surnager et souffrant et mourant pour finir. Et c'est tout. Fin de la parenthèse. On n'est plus du tout dans le même ordre du savoir, vous serez bien d'accord. Hein, vous, ce que vous avez entendu là, c'est au contraire un jeu de correction permanente, ou du moins ce qu'il en savait, ou du moins ce qu'il en imaginait, une connaissance fragmentaire, incomplète, faite d'images, elle-même incomplète, de paroles, mais mal saisies, de sensations mal définies, etc. Une approximation logique, mais toujours incertaine, des déductions hasardeuses, des 1001 versions, tout n'est que hasard, mais peut-être bien que ce n'est pas du hasard que la réalité est indépendante, mais alors elle est indépendante de notre connaissance et c'est pas possible de la débusquer. Bref, on ne s'y retrouve pas, tous les résultats sont incohérents, les résultats sont, le texte le dit, vous avez entendu, idiot. Idiot. Ce n'est plus le bonhomme qui est idiot, c'est l'idée de penser que le bonhomme est idiot. C'est l'idée même de pouvoir tenir un discours cohérent, monologique, sur cette figure. Le roman, donc, apparaît ici comme un roman complètement incertain, indécidable. Simon a cette citation dans un entretien, il dit « Le roman du XIXe siècle était un roman du savoir, celui du XXe siècle est le roman du non-savoir. » Parler ainsi de l'insavoir du roman, c'est dire que le roman n'est pas le lieu d'un savoir qui s'expose, n'est plus le lieu d'un savoir qui s'expose, mais celui d'une question qui se pose et qui s'entretient, celui d'une recherche qui se déploie dans le hasard de ses tentatives. La phrase de Simon qu'on vient d'entendre, mais c'est la même du vent à la route des Flandres et au roman ultérieur, cette phrase en est la manifestation. Le phrasé est plus généralement la forme générale du livre, le mouvement narratif qui accomplit le livre, expose l'égarement de son narrateur, errant, dit Simon, dans sa forêt d'images. Vous connaissez ce croquis, peut-être, que Simon a reproduit au colloque de Cerisy dans plusieurs de ses livres, qui est une sorte de pelote emmêlée, où on ne sait plus exactement où l'on en est. On a souvent comparé la phrase de Simon avec celle de Proust, très longue aussi. Mais celle de Proust est logiquement articulée, très analytique. C'est de celle-ci qu'on se sert dans les classes de lycée pour faire des analyses logiques de la phrase aux élèves. Du moins, on s'en servait, je ne sais plus, peut-être que maintenant on prend des phrases plus courtes. Alors que celle de Simon est constamment digressive, hypothétique. Hypothétique, c'est le mot. C'est-à-dire que si Proust explique, affine la connaissance et finalement arrive à quelque chose comme une thèse dans le temps retrouvé, Simon demeure toujours dans l'hypothèse, c'est-à-dire en deçà de la thèse. Et du coup, son roman ne peut plus s'écrire d'évidence. Il discourt, mais c'est au sens linguistique du terme. Il ne fait pas discours au sens philosophique du mot auquel Balzac, lui, était attaché. On pourrait même jouer à faire des fausses étymologies. Si Claude Simon discourt, c'est qu'il discourt, c'est qu'il court à travers, ici et là, qu'il va et qu'il vient. Plus encore, il dissout même le concept, ce sur quoi, normalement, le discours est fondé. Écoutez ce passage, c'est dans la route des Flandres aussi, mais à la fin. Mais comment appeler cela ? Non pas la guerre, non pas la classique destruction ou extermination d'une des deux armées, mais plutôt la disparition, l'absorption par le néant ou le tout originel de ce qui, une semaine auparavant, était encore des régiments, des batteries, des escadrons, des escouades, des hommes. Ou plus encore, la disparition de l'idée, de la notion même de régiment, de batterie, d'escadron, d'escouade, d'homme. Ou plus encore, la disparition de toute idée, de tout concept. Disparition de tout concept, comment voulez-vous écrire des discours ou des démonstrations à partir de là ? Le concept disparaît chez Simon qui lui oppose le percept, j'ai parlé tout à l'heure d'analyse phénoménologique. Mais le percept lui-même est mal assuré. D'abord parce que la perception elle-même est incertaine. Il y a cette croûte de crasse, de fatigue, cette pellicule qui s'interpose entre le sujet et le monde dans la route des Flandres. Mais aussi les mots pour dire le percept eux-mêmes sont des mots qui ne satisfont pas. Ce passage d'histoire le montre, par exemple. Non, ce n'est pas ça. Entre le lire dans les livres ou le voir artistiquement représenté dans les musées, le toucher et recevoir les éclaboussures, c'est la même différence qui existe entre voir écrit le mot « obus » et se retrouver d'un instant à l'autre, couché, cramponné à la terre elle-même à la place du ciel, et l'air lui-même qui dégringole autour de toi comme du ciment brisé, des morceaux de vitre, et de la boue, et de l'herbe à la place de la langue, et toi-même éparpillé et mélangé à tellement de fragments, de nuages, de cailloux, de feu, de noir, de bruit, de silence, qu'à ce moment le mot « obus » ou le mot « explosion » n'existe pas plus que le mot « terre » ou « ciel » ou « feu », ce qui fait qu'il n'est pas plus possible de raconter ce genre de choses, qu'il n'est possible de les éprouver de nouveau après coup, et pourtant... Tu ne disposes que de mots, alors tout ce que tu peux essayer de faire. Point de suspension. Voilà, c'est dans ce débat-là que se situe l'œuvre de Simon, dans ce rapport toujours incertain à la fois au percept, dans ce rapport de contestation au concept, dans ce mode conjectural de la perception. Souvenez-vous toutes ces modalisations, hein, « il me semblait voir », etc. Il n'y a pas de visée perceptive même, ce sont des choses qui s'imposent au regard, et qui s'imposent au regard dans une sorte de situation où le narrateur lui-même parfois renonce à les comprendre. Encore ce passage-là très rapide dans la route des Flandres, Georges se demandant sans exactement se le demander, c'est-à-dire constatant avec cette sorte d'étonnement paisible, ou plutôt émoussé, usé, et même presque complètement atrophié par ces 10 jours au cours desquels il avait peu à peu cessé de s'étonner, abandonner une fois pour toutes cette position de l'esprit qui consiste à chercher une cause ou une explication logique à ce qu'on voit ou à ce qui vous arrive, donc ne se demandant pas comment, constatant seulement que, etc. Donc, ces conjectures, ces hypothèses, ces digressions manifestent le côté erratique du savoir, que les incises, les parenthèses, les tirets ne cessent d'essayer de corriger selon cette figure de périphrase, de circonlocution, ou encore cette figure d'épanorthose, vous savez, cette figure de correction à l'intérieur du texte qui est l'un des traits caractéristiques de l'œuvre de Simon. C'est-à-dire, l'épanorthose, c'est une pratique de la rature, de la reprise. Un écrivain traditionnel, quand il corrige un mot, eh bien, il l'efface, il l'enlève, il le remplace par un autre. Simon, non, il le laisse. Parce que peut-être que finalement, il n'était pas si erroné que cela. Peut-être que le sens se situe dans le battement entre les deux mots qu'il donne. Et tout ce qui se produit au niveau de l'énonciation finit par mettre en péril également le récit dans ses fondements propres, dans sa linéarité, par le jeu de la réitération, par ses structures obsessionnelles, ressassantes, par ses digressions, jusqu'au narrateur qui se trouve lui-même incertain. Il y a cette hésitation dans la route des Flandres qu'on avait déjà vue chez Faulkner et Georges ou Blum qui parle, on ne sait plus. Il y a cette hésitation entre le « je » et le « il », le même narrateur qui parfois écrit à la première personne, parfois est écrit à la troisième dans le même roman, ce dont se souviendra Arnaud Bertina dans « Anima Motrix » par exemple. Dès lors, on peut se demander, notamment en ce qui concerne le propos à tenir sur l'histoire, comment l'écriture peut tenter de dire ce qu'elle ne sait pas, ce dont elle sait qu'elle ne le saura jamais, et comment de cet insavoir même, toute une œuvre procède. Au rebours de tout positivisme, de toute certitude. Quelles sont les stratégies déployées à cette fin? Quelles sont les formes implicites d'historiographie mobilisées ou récusées? Comment l'écrivain contourne-t-il cette impossibilité à laquelle il se confronte et qu'il a posée lui-même à l'orée de son œuvre? Car on le sait aussi, l'œuvre de Simon n'aura cessé d'interroger l'histoire. Et peut-être plus encore de s'interroger face à l'histoire. Et c'est dans ce battement-là que ces livres se cherchent, dans cette insistance qu'ils s'écrivent. « Je n'ai pas d'imagination, » déclare Simon, « mais j'ai retenu assez d'histoires de famille, de ma famille, pour remplir longtemps mes livres. » Et il renchérit, je cite, « à partir de l'herbe, tous mes livres sont plus ou moins à base de vécu, une masse confuse et emmêlée d'images qui se présentent à mon esprit. » Le corpus, donc désormais constitué, s'organise autour d'expériences personnelles, d'histoires de famille et de l'histoire tout court. Il le dit, hein, c'est l'un des grands passages très célèbres du discours de Stockholm, lorsqu'il dit qu'il a traversé le XXe siècle, et justement l'histoire calamiteuse de ce siècle. L'histoire tout court, donc, dans un ensemble de récits et de fragments mal démêlés, indémêlables, sans doute. D'autant que ces catégories même y sont tour à tour discutées, comme on l'a vu pour les images et les pensées, etc., les paroles tout à l'heure. Qu'est-ce en effet que l'expérience personnelle d'un sujet quand le sujet se trouve être le jouet d'événements sur lesquels il ne s'assure aucune prise? Qu'est-ce que l'histoire de famille quand la famille subit les travers et les ruptures de l'histoire avec un grand H, une grande H, dirait Pérec? Et qu'est-ce enfin que l'histoire? Dès lors, c'est l'exergue de l'herbe qui le dit, en empruntant à Pasternak, dès lors qu'on ne la voit pas se faire, pas plus qu'on ne voit l'herbe pousser. La question, évidemment, est immense et je ne pourrais pas la trancher dans l'espace de cette intervention, d'autant que pour ça, il faut quasiment retraverser l'ensemble des livres de Claude Simon. Car cet ensemble dessine un mouvement, il dessine une progression, qui n'est sans doute pas un progrès au sens où il conduirait, comme chez Proust, à quelque achèvement, à quelque clarté ultime, mais quelque chose comme une approximation toujours relancée. On s'approche de, on tente les choses par approximation. Et il me semble que ce phrasé que nous connaissons bien, cette relance permanente de la phrase par correction successive, cette poétique de l'épanorthose, si on veut, qui donne le branle à l'œuvre complète, est dans une sorte d'équivalence en abîme de ce microcosme syntaxique de l'œuvre et de l'œuvre tout entière. L'œuvre tout entière ne cesse de se reprendre, de se corriger, de se redire. Il y a là quelque chose qui tient du ressassement, mais il faut l'entendre au sens étymologique du terme. Ressasser, c'est repasser par le sas. C'est repasser par le sas, c'est un vieux mot pour désigner les tamis. Donc c'est tamiser toujours la même farine pour essayer peut-être de l'affiner, hein, pour aller un peu plus loin dans le grain des choses. Si les livres reviennent toujours aux mêmes images obsessionnelles, s'ils font l'épreuve de la reprise, de la répétition, ce n'est donc pas qu'ils simplement, même si c'est aussi cela sans doute, qu'ils s'affrontent à l'indicible d'une expérience sidérante, ni au dire infini, indépassable d'un passé qui ne passe pas, mais qu'ils s'obstinent aussi à faire advenir quelque chose, comme une lucidité au sein même de l'insavoir qui les constitue fondamentalement. Car il me semble que toute l'œuvre procède effectivement de là, de cet insavoir qu'elle a posé à son origine. mais qui, au lieu de la réduire au silence, en lance et en relance sans cesse le questionnement dans ces fameux termes qui scandent la route des Flandres, comment savoir, et même, à la fin de ce même livre, que savoir, ou, dans le palace, mais comment était-ce, comment était-ce, comment était-ce. Telle est en effet la question, celle d'une génération d'hommes pour qui tout vacilla, d'un siècle où les convictions et les positivismes se défirent, se perdirent au point de laisser égarer les penseurs, les lettrés dans un questionnement sans fin. On sait que c'est une question qui est aussi réitérée par Beckett envers l'effondrement de tout repère stable. Comment c'est ? Sauf qu'entre Beckett et Simon, si la phrase pareillement se cherche et se conteste, dans le mouvement de ces corrections, de ces épanorthoses, il demeure, je crois, une différence majeure. Comment c'est ? Demande l'un. Comment c'était ? S'inquiète l'autre. À la différence de Beckett, dont le présent est devenu intemporel et questionne finalement l'ontologie, dans l'écriture simonienne, qui ne s'écrit pourtant jamais qu'au présent de l'écriture, c'est bien le passé qui s'interroge. C'est une histoire. Ce sont des existences blessées. C'est l'histoire. Alors de l'histoire, l'œuvre offre d'abord des versions fourvoyées. Le tricheur en 45, Gulliver en 52, le sacre du printemps en 54. Fourvoyé parce que trop conforme au modèle littéraire en vigueur dont l'écrivain entend s'affranchir, l'absurde, l'existentialisme. Gulliver, par exemple, distribue l'histoire sur des personnages, il en fait des emblèmes, comme ceux des chemins de la liberté de Sartre envers lequel Simon est si sévère. On a observé, c'est Maurice Nadeau, la parenté du tricheur et de l'étranger, le tricheur étant écrit d'ailleurs en même temps que l'étranger, même bien que publié plus tard, comme une sorte d'autre version de l'absurde. Mais une fois ces versions récusées, quelles sont les voies qui s'offrent à l'écrivain ? Alors on peut essayer d'esquisser, je vais le faire très rapidement, le fil de l'œuvre, et en le faisant, on voit apparaître l'exploration successive de voies diverses, dans une sorte de parcours finalement. L'herbe en 58, d'abord, confond l'histoire avec l'accumulation du temps. Comme le dit bien l'exergue, et que j'ai lu tout à l'heure, et le passage aux accents un peu faulkneriens qu'on y trouve et que je cite, « Nous aurons au moins appris cela, que si endurer l'histoire, pas s'y résigner, l'endurer, c'est l'affaire, alors la terne existence d'une vieille dame, c'est l'histoire elle-même, la matière même de l'histoire. » Pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore lu, l'herbe, c'est le récit de l'agonie d'une tante, du narrateur, tante Marie dans le livre et tante Mie dans la réalité. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'expression « endurer l'histoire », l'insistance sur le verbe « endurer » qui n'est d'ailleurs pas sans faire écho à l'appendice Compson où Faulkner écrivait à propos de Dilsey, cette autre vieille dame, mais noire celle-là, et des serviteurs noirs de la maison aussi, « they endured », ils enduraient, ils supportaient. Finalement, la matière même de l'histoire dans ce livre n'est pas événementielle, c'est l'exact inverse, c'est le quotidien, insignifiant, toujours reconduit, qui forme, écrit encore Simon, je le cite, « la terrifiante répétition, la terrifiante suite des jours ». Une répétition dont les carnets de la tante Marie sont la trace tangible, matérielle. Et retenez ce point matériel, je crois qu'il est important. Pas d'histoire donc, mais une épaisseur de temps. Et aussi, surtout peut-être, cette endurance, cette persévérance dans l'exister, sur quoi il convient d'attirer l'attention, parce que c'est elle aussi qui résonne jusqu'à la fin de l'œuvre. Alors là, on pourrait faire des développements sur la littérature contemporaine, sur son intérêt pour le quotidien, et je vous renvoie, puisque je n'ai pas le temps de le faire, à ce très très beau livre de Michael Sheringham, qui vient d'être traduit en français, justement, sur l'écriture du quotidien que vous trouvez au Presse universitaire de France. Plus tard, la route des Flandres en 60 et le palace en 62 paraissent à bien des égards plus directement concernés par l'histoire au sens commun du terme cette fois. Une guerre, une révolution, une guerre civile. Mais l'histoire n'y fait pas sens. La révolution n'y est, selon l'exergue, qu'un mouvement sans fin qui parcourt une courbe fermée et repasse par les mêmes points, lit-on dans le palace. Ce sont en fait surtout des romans de l'immersion. Le narrateur hier, on l'a dit, dans sa forêt d'images. Et ce n'est pas tant, ou du moins pas seulement, le chaos d'expérience qui l'égare, Mais c'est le désordre de sa mémoire aussi. C'est l'ascription de cette mémoire dans son effort pour faire trace d'une expérience elle-même non dominée. Aussi, de ces deux livres sourdent effectivement ces questions que j'ai rappelées tout à l'heure. Comment savoir? Comment était-ce? C'est dire que ces questions, qui portent sur un objet historique donné immaîtrisable, s'interrogent, plus encore peut-être, sur le mode d'apparaître des choses à qui les voit et les mémorise. Et donc, plus souterrainement, sur une méthode. Comment savoir? Comment était-ce? Alors, cette méthode, il semble qu'elle trouve sa formule idéale à la fin de la route des Flandres, sous une forme sans doute impossible à réaliser, mais qui viendrait peut-être résoudre le questionnement sans fin. Le narrateur évoque une dernière fois le capitaine de Reschach et sa mort énigmatique en ces termes que je cite. La citation est un petit peu longue. Il se rapprochait, l'œil immobile et attentif de son assassin patient, l'index sur la détente, voyant pour ainsi dire l'envers de ce que je pouvais voir, ou moi l'envers et lui l'endroit, c'est-à-dire qu'à nous deux, moi le suivant et lui, l'assassin, hein, le regardant s'avancer, nous possédions la totalité de l'énigme. L'assassin sachant ce qui allait lui arriver et moi sachant ce qui lui était arrivé, c'est-à-dire après et avant, c'est-à-dire comme les deux moitiés d'une orange partagée qui se raccordent parfaitement, au centre de laquelle il se tenait, ignorant, ou voulant ignorer ce qui s'était passé comme ce qui allait se passer, dans cette espèce de néant de la connaissance, de point zéro. Ce passage, je crois, mérite commentaire. D'abord, l'image qu'il convoque, ce n'est pas une image anodine, elle a une histoire littéraire et non des moindres. Cette orange aux deux faces, dont la vision simultanée est, comme dirait Merleau-Ponty, incompossible, c'est-à-dire impossible en même temps, provient en fait de Virgile via Stendhal. « Non omnia possumus omnes », écrit Virgile dans « Les églogues », et Stendhal complète « Quelques bons yeux que nous ayons, nous ne pouvons pas voir à la fois les deux côtés d'une orange. » C'est dans Racine et Shakespeare. Virgile, auquel Simon, vous le savez, emprunte le titre des Géorgiques, et Stendhal, auquel il renvoie pour expliquer via Henri Brulard combien la mémoire peut être victime des médiations qui prennent dans le souvenir la place de la réalité vécue. Nous sommes là au cœur de la bibliothèque de l'écrivain. L'écrivain écrit avec la littérature. Et ça aussi, c'est un geste contemporain sur lequel on pourrait s'étendre un instant, hein, de tous ces romans lettrés, Quignard, Massé, etc., qui ne cessent d'aborder le monde avec la bibliothèque. Mais je reviens à cette image de l'orange coupée en deux, image si évidemment symbolique. Symbolon, faut-il vous le rappeler, provient de ce verbe symbalein qui signifie mettre ensemble deux parties d'un objet brisé, donc les conjoindre pour les rassembler, les comparer, et grâce à cette conjonction, expliquer quelque chose ou attester de quelque chose. Cette image, donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que celui qui est immergé dans l'énigme de l'histoire, celui qui se trouve au point zéro du néant de la connaissance, celui qui fait symboliquement l'épreuve de l'insavoir, ne peut se comprendre que dans la conjonction de regards tiers, autres, démultipliés, à la fois simultanés et opposés, convergents mais venus d'ailleurs, se partageant les espaces temporels, l'avant, l'après. On aura reconnu là à la fois un principe de déchronologisation du récit, qui demeure très actif dans la littérature contemporaine, et de kaléidoscopie des points de vue et des perspectives. Dès lors, l'œuvre de Simon elle-même n'aura de cesse que de réintroduire de la distance dans l'expérience, de chercher à réunir le divers, le diffracté, à tenter de les faire converger en quelque sorte, sans pour autant que cette distanciation parvienne jamais à abstraire le narrateur de son errance. Cela commence avec Histoire, en 67, par une remontée à Mont qui cherche au moyen de cartes postales à reconstituer ce qui était arrivé. Il y a aussi dans le même livre, encore une fois, un recours à la littérature, à la bataille de Waterloo, telle que la raconte Victor Hugo, qui est un intertexte majeur du livre. Il y a aussi un recours à César et à Lucain, cette fois c'est dans la bataille de Pharsale en 69, qui fait plus que prendre au pied de la lettre une assertion qui était un peu sarcastique dans la route des Flandres, et que je vous rappelle, j'avais déjà lu en latin ce qui m'est arrivé, ce qui fait que j'ai pas été trop surpris et même dans une certaine mesure rassuré de savoir que ça avait déjà été écrit. Bon, on sait bien que le recours au latin est disqualifié par avance dans la figure installée depuis l'herbe du père de Georges. Vous savez, c'est un universitaire, nul n'est parfait, qui croyait aux livres, hein, comme d'autres croient au ciel, quand ni le ciel ni les livres n'en peuvent mais, puisque ces livres n'ont pas empêché, c'est encore dans la route des Flandres, les bombes au phosphore dans le ciel de Leipzig qui ont détruit la bibliothèque des Lumières. C'est aussi, ailleurs, le retour à la peinture, les tableaux de bataille, justement, signés de Piero della Francesca, de Bruegel, de Poussin ou d'Uccello, avec une superposition de la description de ces tableaux, l'ekphrasis, comme disent les rhéteurs, et de la réminiscence qui tente de documenter ce qui fut sans trace, et donc d'inventer par substitution un point de vue extérieur pour dire ce qui manque à l'expérience vécue. Tiens donc, mais c'est comme ça que fait Michon dans les vies minuscules. Peut-être pourrait-on considérer aussi à certains égards que la période plus formaliste de Claude Simon, sur laquelle je ne m'étendrai pas, était aussi une sorte d'effort de prise de distance pour jouer la structure contre l'histoire. Un livre a été écrit là-dessus, c'est le livre de Nelly Wolf, hein, qui présente le nouveau roman comme une littérature sans histoire. Mais c'est avec les Géorgiques, après donc une gestation de 8 ans, puisque le livre paraît en 81, que l'intuition finale de la route des Flandres commence finalement à être véritablement mise en chantier. L'hypothèse que je fais ici est que l'œuvre ultime de Simon, donc à partir des Géorgiques, revient, après avoir semblé y renoncer dans les agencements formalistes de triptyque ou de leçons de choses, à cette interrogation demeurée sans réponse de la route des Flandres. Comment savoir ? La route des Flandres, le palace Histoire, avait exploré l'insuffisance mémorielle, l'ineffable de l'expérience, l'incompréhension de ce qui s'y trouve l'objet, sinon le jouet de l'histoire. Aussi s'agit-il désormais de se tourner, d'une part, vers les autres champs possibles du savoir, et on aurait là à faire des grands développements sur le rapport de la littérature contemporaine avec les sciences humaines, d'autre part, vers des expériences antérieures, notamment celle du père dans l'Acacia, qui pourraient contribuer à élucider le vécu du narrateur lui-même. Et on aurait là des développements à faire sur le récit de filiation, un récit de filiation qui commence à être pratiqué par les historiens eux-mêmes, hein. Vous avez peut-être vu paraître récemment celui de... Oudon Arouzeau, merci. Merci Patrick. Et il y en avait eu d'autres également auparavant. Donc d'autres quartiers d'orange, d'autres tessons brisés, d'autres symboles qu'on va chercher. Et c'est ce à quoi s'emploient déjà les Géorgiques, c'est-à-dire à interroger cette fois un savoir documenté. Donc non plus le matériau brut, effectif, des carnets de tante Mie, mais celui des registres de l'ancêtre conventionnel et général d'Empire des Géorgiques, la Combe Saint-Michel, le témoignage d'Orwell dans le même livre, puis dans le Jardin des Plantes, le journal de Rommel, les mémoires de Churchill, les archives militaires de Vincennes. Il s'agit donc pour Simon là de se livrer à quelque chose de semblable peut-être au travail d'un historien croisant ses sources, avec, comme l'écrivain l'écrit lui-même dans une lettre à John Fletcher, l'excitation, je le cite, « d'avoir l'impression de toucher ainsi l'histoire du doigt ». Et de fait, durant cette période, Simon accomplit une véritable recherche archivistique, pardon, digne d'un véritable professionnel. La critique ne s'est d'ailleurs pas trompée là-dessus, puisqu'il y a ce numéro de la revue critique, justement, où on trouve un texte de François Châtelet qui dit que Simon a une vision de l'histoire. Et ce travail-là, c'est aussi un travail que la littérature contemporaine poursuit. Les romans d'archives sont aujourd'hui très nombreux. Et je pourrais encore une fois renvoyer à Michael Sheringham qui travaille sur ces questions-là, ou même aux nombreux dialogues qu'un grand nombre d'écrivains entretiennent avec Arlette Farge, par exemple. Et donc, une pratique documentaire qui se déploie dans le Jardin des Plantes, puisque là, vous avez la compulsion des archives militaires conservées au château de Vincennes, par où Simon s'accorde une nouvelle prise sur sa propre expérience, et même plusieurs nouvelles prises, puisqu'il y a aussi, je le disais à l'instant, les mémoires de Rommel ou de Churchill. Rommel, Churchill, les deux côtés de l'Orange, celui qui vient de l'Est, celui qui vient de l'Ouest, finalement. Hein, les deux armées en présence. Il recourt ainsi à la diversité des points de vue. Mais Il n'en propose pas la synthèse. C'est là peut-être qu'il n'est pas historien. Puisque là encore, les différents éléments informatifs ne sont pas articulés, ils demeurent juxtaposés dans le livre. Et cette juxtaposition est même formalisée dans la disposition du livre. Et c'est seulement dans leur conjonction irréalisée que peut-être quelque chose se dit, dans les interstices du texte, que signalent ces dispositifs justement un peu simultanéistes de la présentation graphique. Car on passe alors à l'éclatement fragmentaire le plus radical de l'œuvre. La multiplication des sources ne produit finalement que de la dispersion. C'est de l'hétérogénéité, c'est la déliaison qui se manifeste. La convergence que peut-être le narrateur a tentée échoue à produire de la congruence. Entre les deux livres, les géorgiques, Jardin des plantes, l'Acacia paraît déroger à ce type de mise en perspective. Le parallèle entre l'expérience du père et celle du fils produit encore des effets de répétition, mais comme spiralés, en ce qu'elle se décline d'une génération à l'autre, qu'elle inscrit des dates, et qu'elle s'ouvre à une mise en perspective proprement historique selon les modalités d'une histoire qu'on pourrait presque dire sociale d'ailleurs, autre historiographie. On y observe moins de recours à des documents susceptibles d'éclairer les situations vécues, et pourtant Claude Simon a compulsé quantité d'archives institutionnelles et familiales, comme il le confie à plusieurs amis, Chilpoux par exemple ou Bergstrom, et lesquels d'ailleurs sont conviés parfois à l'aider à chercher les documents. Mais ces documents, il ne les fait pas figurer sous forme de collage. Sauf qu'il laisse parfois affleurer leur origine en adoptant à son tour un ton d'historien. On lit, par exemple, « Parvenu le 22 août au village de Jamoigne-les-Belles, en Belgique, le régiment perdit dans la seule journée du 24, 11 officiers et 546 hommes sur un effectif total de 44 officiers et 3000 hommes. Bon, » on n'a plus l'impression d'être dans du Claude Simon, on a l'impression d'être effectivement dans un document historique. Sauf que cette moindre visibilité des documents signe ici la vanité d'une mort paternelle demeurée elle-même sans trace, privée de corps autant que de corpus. Mais pour être physiquement absente, ces traces écrites nourrissent cependant quantité d'allusions, plus ou moins critiques, à toute forme d'historiographie. Alors cela va de la mémoire commune, les récits reçus, dont on parle à la fin du roman, aux échos faits à la littérature épique et à ses avatars dans l'imagerie scolaire, lorsqu'on présente le père blessé, allongé au pied d'un arbre et surveillant la bataille, tout en agonisant. Cela touche aussi au rituel funéraire, lorsque la mère, en quête d'une tombe, trouva une fin, dit-on, et s'agenouille et se signe devant une tombe dont on ne sait pas qui elle recouvre, manifestant ainsi que le rituel est peut-être plus décisif que sa pertinence effective. Qu'importe que la tombe soit vide ou qu'elle soit celle d'un autre, le geste de s'y recueillir est performatif. Simon emprunte aussi à une certaine philosophie de l'histoire, celle du déterminisme historique, issu de la pensée marxiste, lorsque le texte raconte l'histoire du père depuis une fin que, soutient-il, programmait les circonstances socio-économiques et culturelles établies. Je cite « Ainsi venait de prendre fin une aventure commencée 25 ou 30 ans plus tôt, lorsque l'instituteur d'un petit hameau de montagne vint trouver le père du jeune boursier encore dans les basses classes, etc. » Quand bien même un flot de figures de doute, d'hypothèses, de corrections viennent faire trébucher le déterminisme un peu trop parfait de cette narration, elle n'en prend pas moins l'aspect édifiant d'un modèle, celui mis en œuvre par la Troisième République et ses conséquences dramatiques. Transmission orale, transmission littéraire, édification religieuse, explication positiviste, lecture sociale sont donc renvoyés dos à dos. Simon montre littérairement que, comme l'écrit Marc Angenot, je cite, « les grandes idéologies doctrines même, qui peuvent sembler former des secteurs les plus solides du discours social, et dont la systématicité s'oppose le plus nettement à la textualité littéraire, ne sont que des bricolages, sur du déjà-là idéologique qu'elle refaçonne. » C'est dire que l'Acacia est entièrement sous-tendue par cette critique historiographique dont les linéaments n'ont finalement pas cessé de courir d'un livre de Claude Simon à l'autre. Je rappelle les premières pages de l'Herbe. L'histoire n'est pas, comme voudraient le faire croire les manuels scolaires, une série discontinue de dates, de traités, de batailles spectaculaires et cliquetantes, mais au contraire, sans limite, et non seulement dans le temps, mais aussi dans ses effets. Ou encore, ce passage dans la route des Flandres. Nous y voilà, l'histoire. Ça faisait un moment que je pensais que ça allait venir. J'attendais le mot. C'est bien rare qu'il ne fasse pas son apparition à un moment ou à un autre, comme la Providence dans le sermon d'un père dominicain, comme l'Immaculée Conception. Alors, j'abrège, la vindicte dure un peu, c'est quasiment célinien, là, hein, pour ne conserver que la fin de l'histoire, qui n'est pas moins célinienne, puisque l'histoire est comparée à, je cite, ce qu'on pourrait appeler le vacuum clinaire, ou plutôt le tout à l'égout de l'intelligence, alimentant sans trêve ce formidable amoncellement d'ordures, cette décharge publique où figurent en bonne place, au même titre que les képis à feuilles de chêne et les menottes des policiers, les robes de chambre, les pipes et les pantoufles de nos penseurs. Cette histoire, écrit-il encore, ne laisse derrière elle, je le cite à nouveau, qu'un résidu abusivement confisqué, désinfecté et enfin comestible à l'usage des manuels scolaires agréés et des familles à pédigré. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps pour aller jusqu'au Jardin des Plantes, mais d'autant que le livre mériterait une analyse quand même assez fouillée, mais rapidement, si vous voulez bien. Donc, j'ai dit Churchill, Vincennes, Rommel, qui concourent à tenter de comprendre ce qui s'est passé à Solerey-le-Château en mai 40, et cependant, rien n'en ressort. C'est à la route des Flandres qu'est renvoyé à la fin du livre le lecteur, et notamment à la tentative échouée de transposer ce roman au cinéma. Mais quatre choses insistent dans ce livre. D'abord, la conviction que transmettre est impossible. Ce jeune journaliste venu interroger l'écrivain ne peut rien comprendre à ce qu'essaie de lui dire l'ancien combattant. L'histoire est non seulement incompréhensible à qui la vit, mais intransmissible à qui ne l'a pas vécue. Deuxièmement, dans les transcriptions d'expérience, le peintre Gastone Novelli a remplacé Orwell. Plus de syntaxe, Orwell qui était présent dans les Géorgiques. Plus de syntaxe, plus de représentation, c'est une peinture abstraite. Des « ah » qui crient sur sa toile l'indépassable de la douleur. C'est le non figuratif qui seul a charge de dire. Et ce non figuratif, c'est celui de l'art auquel plus d'une fois Claude Simon aime à renvoyer Rauschenberg, Louise Nevelson, Tapiès, Dubuffet. C'est-à-dire aussi un non figuratif matériel. Ce sont des gens qui travaillent avec des objets, les colles sur la toile ou les agences en installation. Troisièmement, l'ultime réponse qu'obtient le journaliste qui presse le narrateur d'expliquer la peur qu'il doit bien avoir ressentie, c'est celle-ci, une chemise imprégnée de crasse et de sueur qui tient lieu de réponse. Je cite, « Il a dit, oui, je comprends, je... » J'ai dit, non, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez tout simplement pas. C'est absolument impossible. Mais alors, disons que la peur, c'est comme la chemise crasseuse et puante que vous portez, et dont il n'est pas question que vous changiez. Elle est collée à votre peau et vous ne la sentez pas puer parce que c'est votre propre puanteur. Mais voilà, c'est votre chemise. Et, point de suspension. Or, c'est bien de cela dont il s'agit. Ces linges de corps maculés de traces humaines qu'un Anthony Tapiès, par exemple, colle sur ses tableaux. Enfin, quatrièmement, le Jardin des Plantes, comme du reste le tramway qui paraît après, insiste sur un point majeur, récurrent, de l'œuvre entière, que cette œuvre est celle d'un homme qui a éprouvé la certitude d'être tué, et n'est donc pas futilement occupé du pourquoi, mais du comment continuer à vivre. C'est dans le Jardin des Plantes. Dans ses brouillons, Simon le souligne, bien insister sur le fait qu'il pense qu'il va mourir. Et c'est encore ce qu'il répète lorsqu'il fait son discours à Stockholm en recevant le prix Nobel, lorsqu'il se présente comme ayant été plusieurs fois au bord de la mort. Dans le Jardin des Plantes, Simon rassemble les documents les plus aigus de cette menace en un paragraphe qui se conclut par « maintenant, maintenant, maintenant ». Aussi faut-il lire cette œuvre comme l'œuvre d'un survivant. Ce que dit, je crois, très bien, à sa façon, le passage sur la mélancolie qu'il habite. Mais la mélancolie au sens revisité de ce mot que Simon emprunte à Dostoïevski, vous le savez, le sentiment que brusquement on va disparaître au monde et qu'on va en perdre l'inépuisable beauté. L'histoire donc, ce serait cela, non pas les débris dispersés des événements et les pièces qui en témoignent et finalement n'en disent rien, moins encore les discours qui, pour expliquer le cours, en écrasent les plis. Simon reprochait, vous le savez, à Raymond Aron d'avoir écrit, je cite, « une histoire coupée de l'expérience sensorielle des faits ». Mais l'expérience sensorielle des faits invalide elle-même la possibilité d'écrire l'histoire. Rapportée à cette aune, donc, l'histoire, ce serait quelque chose comme la condition humaine, ce qui vous colle à la peau. Chemise puante, certes, mais c'est votre chemise. Ou pour le dire dans des termes plus simoniens encore, le simple mais déterminant affrontement à la mort prochaine, le désir de tenir, de tout voir et de tout retenir, et la mélancolie de tout perdre. Et je rejoins ici Pierre Bergougnoux qui écrit dans l'hommage que j'avais rassemblé pour les Cahiers Simon, que vous trouverez, c'était le numéro 2 des Cahiers Simon, Pierre Bergougnoux qui écrit, et je lui laisse la parole pour conclure, « C'est en écrivant qu'il pourra se ressaisir, reconnaître le visage obscurci, peut-être absenté, de sa destinée. Ainsi germe la phrase tâtonnante, sinueuse, persévérante, qui est la voix même de Claude Simon. Elle est l'effort épuisant, épuisé, invincible, pour réannexer ce que l'histoire, dans sa démence, a emporté, à commencer par celui qui écrit, après qu'elle l'a roulé comme fétu dans son cours irrésistible, incompréhensible.